Laudetur Jesus Christus.
L'attention du pape aux églises orientales. Le Saint-Père a reçu les membres de la ROACO, l'organisme d'aide aux églises d'Orient ce matin. Il les a remerciés pour leur précieux travail. 4 ans de conflit dans les zones anglophones du Cameroun. Une nouvelle fois, nous l'entendrons, l'église se mobilise pour relancer le dialogue. Presque 3 semaines après le second tour de l'élection présidentielle, toujours pas de vainqueur officiel au Pérou. Le climat social est de plus en plus tendu. Et puis nous irons à Hong Kong. De nombreux citoyens déplore la fermeture d'un journal pro-démocratie. Reportage à suivre.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonjour. Drame humanitaire en Syrie, Éthiopie, paix menacée en Arménie, crise sociale au Liban. Le pape montre son attention aux détresses des églises d'Orient. À l'issue de 4 jours de travaux, les membres de la ROACO, l'organisme d'aide à ces églises, ont été reçus en audience par le Saint-Père ce matin au palais apostolique. Le souverain pontife argentin les a remerciés pour leur travail précieux et les a invités à poursuivre leur action essentielle dans ces terres martyrisées. Delphine Allaire.
Le pape s'est d'abord ému du sort du Liban, pays englué dans une triple impasse politique, sociale et économique, et pour lequel il convoque un sommet le 1er juillet avec des responsables chrétiens. Le Saint-Père a demandé de prier donc en particulier l'Esprit-Saint pour la terre du Cèdre. Il a ensuite développé le contexte israélo-palestinien, peuple pour lequel nous rêvons toujours que l'arc de paix donné par Dieu à Noé s'étende dans le ciel, un ciel trop souvent sillonné par des appareils qui apportent la destruction. C'est attristé le souverain pontife, attentif aussi aux cris qui monte de Syrie, le scandale de 10 ans de conflit, de millions de personnes déplacées à l'intérieur, à l'extérieur du pays, toujours otages de logiques partisanes dans cette nation tourmentée. L'Éthiopie également est dans le cœur du pape, tout comme l'Arménie, où il se rendait en voyage apostolique il y a pile 5 ans. François a fini par s'adresser aux nonces en poste dans tous ces pays, les exhortant à se concentrer sur l'essentiel, soit l'annonce de l'évangile. En effet, a assuré le pape, il est nécessaire de reconstruire bâtiments et cathédrales, mais nous devons d'abord avoir à cœur les pierres vivantes, blessées et dispersées.
Delphine Allaire. Des précisions à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le conflit se poursuit dans les 2 provinces séparatistes anglophones du Cameroun. Depuis près de 4 ans, l'armée camerounaise et les groupes armés s'affrontent dans un sanglant face-à-face qui a fait plus de 3500 morts et plus de 700 000 déplacés. Face au blocage de la situation, l'Église catholique continue d'élever la voix pour parvenir à une solution pacifique. Olivier Bonnel.
Oui, Marie. Et nous avons besoin d'une approche qui envisage un dialogue inclusif avec toutes les parties concernées. Ce sont les mots du père Bong Abba, prêtre de l'archidiocèse de Bamenda, le chef-lieu de la province anglophone du nord-ouest camerounais. Selon lui, il ne se passe pas une semaine sans qu'il y ait des victimes causées par des attaques surprises des combattants séparatistes ambazoniens. Alors si les exactions des rebelles sont sévèrement condamnées, les autorités camerounaises sont également invitées à privilégier la voie du dialogue et de la négociation plutôt que d'une répression militaire qui, selon le responsable catholique, aboutit à une impasse. Depuis des années, l'Église camerounaise rappelle que seul un véritable dialogue et la fin des violences peuvent faire revenir la paix. Les offres de médiation, d'ailleurs proposées par l'Église catholique camerounaise, se sont souvent heurtées à un refus des autorités. Au mois de janvier dernier, le cardinal Pietro Parolin avait effectué une visite de 4 jours dans le pays. Il s'était notamment rendu à Bamenda. Le cardinal secrétaire d'État du Saint-Siège qui avait remis le pallium à son archevêque, une façon de montrer, Marine, que le Saint-Siège suit avec attention de la situation dans le pays.
Merci Olivier Bonnel. Et mardi, l'ONG Médecins Sans Frontières avait demandé aux autorités camerounaises la reprise de ses activités médicales suspendues depuis 6 mois dans la province anglophone du Nord-Ouest. 2 semaines après la nomination d'un Premier ministre en Centrafrique, un gouvernement a été présenté hier soir. 31 ministres, de nombreux proches du président réélu Archange Touadéra. Les enjeux économiques et humanitaires du nouveau gouvernement centrafricain sont immenses. Fin mai, l'ONU estimait que la moitié de la population centrafricaine était en situation d'insécurité alimentaire. Une frappe aérienne sur un marché très fréquenté dans le Tigré en Éthiopie. Peu d'informations pour l'instant sur le bilan des victimes. Le marché, à 30 de kilomètres de Mekele, était bondé. La frappe visait des combattants rebelles, se défend l'État. La zone est entourée de barrages militaires, empêchant notamment les humanitaires de se rendre sur place. Et puis toujours sur le continent africain, les 4 paroissiens kidnappés lundi soir au Mali ont été libérés. Direction maintenant le Pérou. Presque 3 semaines après le second tour de l'élection présidentielle, il n'y a toujours pas de vainqueur officiel. Le candidat de la gauche radicale, Pedro Castillo, est arrivé en tête avec 44 000 voix d'avance. Mais son adversaire de la droite populiste et ultralibérale, Keiko Fujimori, conteste ce résultat. Elle exige ainsi l'annulation de 200 000 votes pour des fraudes supposées dans les régions pauvres et rurales des Andes et d'Amazonie, qui ont voté très largement pour Castillo. Un climat qui alimente une vague de haine raciste envers ces populations. Le reportage à Lima de Vinoen Munoz-Boileau.
Depuis plusieurs semaines, les partisans de Keiko Fujimori se déchaînent contre Pedro Castillo et ses électeurs.
Pedro Castillo ne nous représente pas. C'est un ignorant qui ne connaît même pas l'étape de multiplication et n'a jamais ouvert un dictionnaire.
Mais les commentaires sont encore plus rudes sur les réseaux sociaux où l'on peut lire des propos racistes d'une violence inédite tels que Pedro Castillo est une ordure de cholo, un terme péjoratif pour désigner les Péruviens d'origine amérindienne, ou encore exterminons les provinciaux qui ont voté pour lui et violons leurs femmes. Tania Pariona, ancienne députée indigène, impute ce torrent de haine à la candidate Keiko Fujimori.
En appelant à faire annuler le vote des populations indigènes des Andes et d'Amazonie, elle a fait ressurgir une vision coloniale et raciste. Pour Madame Fujimori et ses partisans, les habitants des zones rurales sont des ignorants qui ne savent pas voter.
Comme Tania Pariona, des centaines de Péruviens venus des quatre coins du pays manifestent depuis plusieurs semaines à Lima pour veiller à ce que leur vote soit respecté et rejettent les insultes et menaces dont ils font l'objet. Le climat de haine qui règne au Pérou a suscité des réactions jusqu'au sein de la communauté internationale. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a condamné les discours de haine et la discrimination et a appelé tous les Péruviens à accepter le résultat du scrutin. À Lima, Vilhoen Munoz-Boileau, RFI pour Radio Vatican.
L'ancien président Felipe Benigno Aquino est décédé cette nuit à l'âge de 61 ans. Il s'est endormi paisiblement dans son sommeil, détaille sa famille. Président de 2010 à 2016 avec un programme de lutte contre la corruption et la pauvreté, son mandat est notamment marqué par des réformes économiques qui ont permis une embellie économique aux Philippines. De longues files d'attente ce matin à Hong Kong devant les kiosques pour obtenir le dernier numéro du journal Apple Daily. Le quotidien pro-démocratie ferme ses portes après de nombreuses sanctions des autorités hongkongaises. Le journal est accusé de collusion avec un pays étranger. Le reportage de Philippe Dova.
Des centaines de Hongkongais ont bravé les fortes pluies tropicales pour acheter le dernier exemplaire de l'Apple Daily. Un acte symbolique de soutien à une profonde tristesse pour Andreas.
Le futur est très sombre pour le journalisme. Je ne pensais pas que ce jour arriverait si vite. Regardez les longues files d'attente. Depuis 3 ou 4 heures ce matin, les gens attendent ici, devant ce kiosque à Mongkok, juste pour acheter le journal.
Des personnes comme Timothy, qui n'a pas hésité à faire la queue ce matin.
Je n'ai pas dormi depuis minuit jusqu'à maintenant. Je ne peux pas croire que l'Apple Daily ferme ainsi. Le Parti communiste chinois voulait qu'Apple Daily ferme avant le 1er juillet.
Car selon Timothy, pas question que les festivités du 100e anniversaire du Parti communiste chinois puissent être troublées par un article du tabloïd pro-démocratie. Dans le quartier populaire de Mongkok, le kiosque de M. Ma ne désemplit pas. En temps normal, il vend une vingtaine d'exemplaires par jour. Il en a commandé 1000 aujourd'hui. Et les clients comme Jackie se les arrachent comme des petits pains.
J'en ai acheté 10. C'est le dernier numéro d'Apple Daily, c'est la mémoire de Hong Kong. Je veux les garder aussi longtemps que je le pourrai. C'est très triste. Ça prouve que la liberté de la presse, la liberté de parole ont été brutalement supprimées par le gouvernement.
À côté des nombreuses piles d'Apple Daily, le Dongfeng Daily, journal pro-Pékin, titre en une, 1995-2021, Apple Daily ferme. Fêtons ce jour historique, mais il ne fait pas recette. Monsieur Ma n'en a vendu que 2 exemplaires ce matin. Hong Kong, Philippe Dova pour Radio Vatican.
L'Union européenne et la Russie vont-elles reprendre le dialogue? La France et l'Allemagne proposent de renouer le contact direct, interrompu après le début de la guerre en Ukraine en 2014. Nous recevons positivement cette initiative, a déclaré Vladimir Poutine. En revanche, du côté de l'Ukraine, le pouvoir dénonce une proposition dangereuse. La France, épinglée par le Conseil de l'Europe, la vigie des droits de l'homme sur le continent s'est dit vivement préoccupée par les conditions de détention dans certains commissariats français et par la surpopulation carcérale dans l'Hexagone. Le prochain retour de l'information, c'est tout à l'heure à 18h. Vous serez en compagnie d'Hélène Destombes. En attendant, vous pouvez suivre l'actualité du Vatican, de l'Église et du monde sur notre site internet. Très bel après-midi.